Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Au programme ce soir, de la politique avec Jean-François Copé, plus libre de parole que jamais. Il sera avec nous dans un quart d'heure à 18h15. De l'aventure avec Christian Clot. Christian Clot, il s'apprête à descendre 6 pieds sous terre et même un peu plus dans une grotte ariégeoise avec 13 autres personnes. Ils vont y vivre 40 jours, tel l'homme des cavernes. Expérience scientifique passionnante qu'il nous racontera à 18h40. Et puis du rire aussi avec l'œil de Philippe Cavrivière. Ce sera à 18h30. Enfin, et peut-être pour commencer, il y a de l'actualité avec vous, Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Voici donc les grands titres de ce mardi 23 février.
Une adolescente de 14 ans tuée à coups de couteau dans l'Essonne. Elle s'est interposée dans une rixe entre bandes rivales. Cette question, après les Alpes-Maritimes, Dunkerque sera-t-elle reconfinée? Le nombre de cas de Covid explose. Privé de salon de l'agriculture, cette année, Emmanuel Macron s'est rendu en Côte d'Or. Et puis une annonce pour les étudiantes, des protections hygiéniques bientôt gratuites à la fac.
La météo, bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Thomas.
Et bien demain, ce sera encore une belle journée, comme dirait Mylène Farmer.
Exactement, il y aura pas mal de grisailles et de nuages bas le matin. Quelques gouttes possibles sur la pointe bretonne et le Languedoc. Mais une fois tout ça dissipé, il fera très beau partout. Toujours un peu plus nuageux sur le golfe du Lion. Un ciel un peu plus variable sur les côtes de la Manche. Mais ça restera beau. Et tout comme les températures, même s'il fera un peu frais quand même sur le nord-est le matin.
C'est combien frais?
De 2 à 6 degrés, donc il faut se couvrir. Ah oui. De 7 à 13 ailleurs. Et les maximales seront comprises entre 15 et 22 degrés demain.
Merci, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Une collégienne de 14 ans tuée dans l'Essonne. La jeune fille s'est interposée dans une rixe entre des jeunes de Dourdan et de Saint-Chéron. Des jeunes venus pour provoquer la bagarre. C'est là que l'adolescente a reçu un coup de couteau mortel. 6 personnes interpellées, une enquête est ouverte. Et le quartier, d'ordinaire plutôt tranquille, est en ce moment sous le choc. Vincent Serrano, vous êtes sur place pour RTL.
Oui, quartier sous le choc, puisque tous les habitants de ce quartier pavillonnaire que nous avons rencontré se sont dit surpris par la violence de cette agression. Lorsqu'hier, vers 15h, un groupe d'une dizaine d'individus s'en prend à plusieurs jeunes de la commune devant les grilles du collège. Le temps monte, c'est à ce moment-là que cette jeune fille de 14 ans décide de s'interposer. Elle prend un coup de couteau à l'abdomen. Elle est ensuite transportée très vite à l'hôpital où elle décède un peu plus tard dans la nuit. Mélanie, très proche de la famille, qui connaissait très bien cette adolescente, se dit sous le choc.
À vie. Elle a jamais manqué de respect à personne. C'est une fille très bien. Ça pourrait être ma petite sœur. Et je la considérais comme ma petite sœur. Moi, j'espère que la justice sera faite pour cette petite parce qu'elle a rien demandé à la vie. Et que ces gens-là, ils soient punis. Et voilà, et la moindre des choses, c'est que nous, on veut qu'elle repose en paix parce que c'est une fille en or.
Et deux, trois maisons plus loin, Audrey attend le retour de sa fille ramenée par les grands-parents après le week-end. Sa fille qui est justement scolarisée dans ce collège.
Déjà, ça nous touche en tant que maman. On a peur pour ses enfants et on se demande ce qui se passe, en fait. Et c'est pas rassurant. Pourtant, c'est un petit village. Après, on essaye d'éduquer nos enfants et de leur apprendre aussi à de leur dire de se méfier. Quand on voit que c'est dramatique comme ça, peut-être éventuellement appeler des adultes ou en leur disant la vérité sans leur mentir et sans leur faire peur de la réalité de la vie aujourd'hui.
Alors, 6 mineurs ont été rapidement interpellés, placés en garde à vue. Les enquêteurs doivent maintenant déterminer qui a donné le coup fatal et si ce coup était volontaire ou accidentel.
Le reportage de Vincent Serrano à Saint-Chéron pour RTL.
Ces violences entre bandes rivales de jeunes, c'est un sujet particulièrement sensible dans ce département de l'Essonne.
La procureure et le préfet dénoncent un phénomène qui gangrène l'Essonne et place les mineurs en première ligne. On écoute Éric Jallon, le préfet.
Ce drame intervient dans un contexte où les incidents entre jeunes et les rixes entre bandes ont augmenté, à la fois en nombre, en intensité et en gravité.
Est-ce que vous avez des chiffres qui montrent ça?
Nous avons recensé en 2020 91 rixes contre 56 en 2019. Oui. Nous constatons souvent des rivalités entre quartiers auxquelles même les intéressés ne savent pas donner de véritable explication. Mais ce phénomène de rixes entre jeunes, il prend de l'ampleur. Nous le connaissions et nous le combattons dans des secteurs plus urbanisés du département. Dans ce secteur-là, de Dourdan et Saint-Chéron, de ce que m'en disent les élus qui connaissent le terrain depuis longtemps, des tensions de ce type-là avaient pu être constatées, mais jamais avec ce niveau de violence et de gravité.
Des propos recueillis par Julien Fautra. On apprend également ce soir une nouvelle rixe, toujours dans ce département entre deux quartiers. Une quarantaine de jeunes impliqués à Boussy-Saint-Antoine. 2 blessés par arme blanche, l'un en état d'urgence vitale absolue, un autre grièvement blessé. Après le département des Alpes-Maritimes, Dunkerque sera-t-elle reconfinée? La question se pose alors que la situation sanitaire est extrêmement inquiétante dans cette ville du Nord. 900 cas de Covid pour 100 000 habitants, c'est 4 fois plus que le taux d'incidence moyen sur tout le territoire français. Le maire demande de nouvelles mesures et des efforts pour éviter de finir sous cloche. Samuel Duhamel.
Oui, Patrice Vergritte l'a dit ce midi en conférence de presse, Dunkerque et ses habitants sont dos au mur. Il reste une ultime chance d'éviter un nouveau confinement. Pour cela, le maire de Dunkerque a proposé une stratégie en 4 points. Poursuivre la campagne de dépistage, augmenter la cadence de vaccination, rendre le masque obligatoire partout en extérieur et surtout lancer une grande campagne de prévention autour d'un slogan, zéro rassemblement, zéro regroupement.
C'est la toute dernière chance, il faut que les Dunkerquoises et les Dunkerquois le comprennent. Nous avons proposé au ministre une toute dernière chance à la population pour pouvoir adopter des gestes barrières stricts, extrêmement stricts.
Les Dunkerquois rencontrés cet après-midi se disent fatigués par avance par ces nouveaux efforts à accomplir.
Ça fait un an que ça dure. Moi, je vis tout seul. Bon, j'ai des petits-enfants. Si je peux plus les voir après, c'est bon.
Hein. C'est tout le temps la même chose, en fait. Soit ils confinent une fois pour toutes et on sort, soit ils arrêtent de jouer avec les nerfs des gens.
Demain, Olivier Véran est attendu à Dunkerque pour annoncer si oui ou non, le gouvernement suivra les propositions des élus locaux.
Samuel Duhamel dans le Nord pour RTL. Autre inquiétude en Moselle, cette fois en Moselle, où les variants progressent très très vite. 55% des cas, plus d'un sur deux, sont issus de la souche sud-africaine et 20% du variant anglais là-bas.
Tandis que 4 communes de plus seront désormais sous couvre-feu à La Réunion de 22h à 5h du matin, annonce ce soir du ministre des Outre-mer. Sur le front de la vaccination, la campagne fait régulièrement l'objet de critiques. Lenteur, manque de transparence, disent certains. La commission vaccination du CESE a fait ses recommandations au gouvernement. Mieux organiser la chaîne avec les territoires et mieux communiquer sur le vaccin. Cela passerait par exemple par un site internet unique et un numéro de téléphone pour regrouper toutes les informations.
C'est d'habitude le rendez-vous traditionnel pour les politiques notamment, mais pas que pour eux. Mais il n'y aura pas de salon de l'agriculture cette année pour cause de Covid, là encore.
Emmanuel Macron s'est donc rendu en Côte d'Or quelques heures pour rencontrer les agriculteurs et leur apporter son soutien avec plusieurs débats, dont les revenus, difficiles négociations en cours avec la grande distribution. Un déplacement très politique, Jacques Serret.
Oui, à défaut de bain de foule, porte de Versailles, c'est ici, dans cette ferme située à 15 km de Dijon, qu'Emmanuel Macron a tenté de convaincre une petite dizaine d'agriculteurs.
Je trouvais que c'était important d'abord de continuer à montrer notre soutien complet et entier à l'égard du monde agricole.
À 15 mois de la présidentielle, hors de question pour le chef de l'État de faire l'impasse sur cet électorat toujours très courtisé.
La ferme France a réussi les grands combats qu'on lui a donnés après la Deuxième Guerre mondiale. Faut jamais l'oublier.
Visite de la ferme au milieu de 400 brebis et 300 porcs, puis échange à bâtons rompus lors d'une table ronde. Au centre des discussions, la loi alimentation mise en place depuis 2 ans, censée assurer de meilleurs revenus aux producteurs.
Le lait, on a fait le boulot. Vous l'avez fait. C'est une filière qui a réussi à préserver de la valeur, y compris pour les producteurs, même si c'est trop peu et pas encore assez. Mais au moment où on a cette bonne négo sur le lait, des grands distributeurs demandent moins 10% à des producteurs de charcuterie. Du jour au lendemain, un rétroactif au 1er octobre. Comment vous voulez que ça tienne une seule seconde? Au moment où je vous parle, ça s'est passé ce matin, le grand distributeur n'est pas là autour de la table en question. Mais on se fiche du monde quand on continue de faire ça.
Un président offensif qui tape sur la grande distribution, des airs de campagne à la campagne.
Reportage signé Jacques Serret en Côte d'Or. On marque une petite pause dans un instant. Vous fumez, vous polluez, et bien vous devrez payer. Les cigaretiers devront bientôt financer le nettoyage des mégots, figurez-vous.
Thomas Soto, RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h10, suite du journal avec vous, Aude Vernuccio. Et les cigaretiers vont donc devoir payer pour lutter contre la pollution.
60 milliards de cigarettes fumées par an. Imaginez le nombre de mégots jetés par terre.
60 milliards en France.
Dans le monde.
Ah, dans le monde.
Désormais, les producteurs devront financer la collecte et les opérations de nettoyage. C'est le principe, vous savez, du pollueur-payeur. Christophe Ponzio, comment cela va s'articuler ?
Alors d'abord par la collecte des mégots directement auprès des fumeurs. Ainsi, les cigarettiers qui financent donc cette nouvelle filière dès cette année vont devoir proposer gratuitement des cendriers de poche réutilisables via le réseau des buralistes ou des cendriers publics plus visibles qu'aujourd'hui, notamment autour des gares pour que mégots ne riment plus avec caniveau. Ensuite, les industriels du tabac vont financer le nettoyage de nos rues, nos trottoirs auprès des collectivités locales. Alors selon la taille des villes, le barème varie, cela va de quelques milliers d'euros pour une toute petite ville à par exemple exemple 600 000 euros par an pour Nantes ou plus d'1,5 million d'euros versés à Marseille pour faire disparaître ces vieilles cigarettes. Enfin, ce principe du pollueur-payeur va passer par la mise en place de campagnes de sensibilisation, au moins une tous les deux ans. Elles pourraient être ciblées sur des territoires comme les plages ou les montagnes. L'objectif, c'est de réduire de 20% les mégots abandonnés d'ici à 2024 et de 40% d'ici à dans 6 ans, soit plusieurs milliards de mégots ramassés et recyclés pour un coût total de 100 millions d'euros par an pour les fabricants de cigarettes. C'est plus de 10% de leur chiffre d'affaires.
Christophe Ponzio pour RTL et rectification. C'est donc dire le problème. 60 milliards de cigarettes fumées en France. Imaginez le nombre de mégots chaque année.
Des protections hygiéniques gratuites pour les jeunes femmes à la fac. La ministre de l'Enseignement supérieur annonce leur gratuité dans les facs et les crous.
Installation prochaine de 1500 distributeurs. Tara Eusé-Sarmini, directrice générale de Règles élémentaires, réclamait cette mesure depuis très longtemps.
C'est un grand pas dans la lutte contre la précarité menstruelle en général et une grande victoire dans la lutte contre la précarité menstruelle étudiante. Ça va vraiment permettre de soulager un grand nombre de personnes pour qui leurs règles sont un fléau supplémentaire, un facteur limitant dans leurs études, dans leur scolarité, dans leur recherche d'emploi. On sait qu'il y a un tiers des étudiantes pour qui c'est vraiment très compliqué d'acheter ces produits et on sait également qu'il y a 13% d'étudiantes qui ont déjà dû faire un choix entre manger et se protéger. C'est vraiment une inégalité financière qui va être corrigée avec ce dispositif national.
Propos recueillis par Sébastien Rouxel pour RTL.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Deux mots, Thomas. Argent et football, vous direz que ça va bien ensemble. Eh bien, détrompez-vous. Certains joueurs profitent de leur salaire pour revenir aux sources, Eric Silvestro.
Oui, si je vous dis Vinciani Donji, ça ne vous dit rien.
Oh bah non. Si, c'est un joueur italien, ça.
Même pas. Rassurez-vous, c'est normal. C'est le nom d'un village, Thomas, du sud de la Croatie, situé à une trentaine de kilomètres de la côte adriatique. Environ 2000 habitants. Eh bien, c'est là qu'en 2002, Ante Rebic, 27 ans, qui évolue actuellement à l'AC Milan en Italie, a touché ses premiers ballons au NK Vinciani. L'international croate, titulaire contre la France lors de la finale de la Coupe du Monde 2018, a récemment fait preuve d'une grande générosité en payant les dettes de l'ensemble des habitants du village. Rien que ça. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Rebic combine cœur et portefeuille pour son pays. Natif de Split, il participe également activement au financement de la construction d'un centre de rééducation et d'éducation pour les enfants ayant besoin de soutien.
Eric Silvestro du service des sports d'RTL.
C'est joli. Vous faites pareil vous ou pas? Non.
Oui, bien sûr.
Ah ben, j'en doutais pas. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À suivre l'interview d'actualité d'RTL Soir avec ce soir Jean-François Copé.
Thomas Soto, RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
Il est le maire Les Républicains de Meaux en Seine-et-Marne. Il a été ministre plusieurs fois. Il a dirigé son parti qui s'appelait à l'époque l'UMP. Jean-François Copé est donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous Jean-François Copé.
Bonsoir.
On l'entendait dans le journal de 18h. Une jeune fille de 14 ans, une collégienne, est morte la nuit dernière, quelques heures après avoir reçu un coup de couteau dans le ventre hier à Saint-Chéron. Victime d'une bande de mineurs. Les affaires de bande gangrènent l'Essonne et placent les mineurs en première ligne, a dit la procureure de la République, Caroline Nizan. Bon, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit l'horreur, une fois qu'on a dit l'indignation, on fait quoi, Jean-François?
C'est déjà pas mal de le dire, parce qu'on a été tellement dans le déni sur ce phénomène des bandes qu'il est grand temps de poser le diagnostic et puis de commencer à prendre les choses en main. Il y a deux départements en Ile-de-France particulièrement touchés, hein, c'est l'Essonne et le Val-d'Oise, mais de manière générale, les phénomènes de bandes, c'est un recul supplémentaire dans la présence policière, judiciaire, et puis tout simplement de tout ce qu'on doit faire en amont pour empêcher ça.
Un recul, c'est quoi? Ce sont des territoires perdus de la République, là
c'est
encore
les fameux territoires perdus de la République dont on parle depuis 25 ans, dont on a en réalité jamais voulu assumer que si on voulait enrayer ce phénomène, il fallait une volonté politique, des moyens et des politiques locales très très puissantes, à l'image de ce qu'un certain nombre d'entre nous, maires, avons fait dans nos villes.
Mais vous, au niveau de votre ville, à Meaux, par exemple, il y a des quartiers qui ne sont pas simples non plus, il y a des bandes. Comment vous faites?
Eh bien, on est très très présent en réalité. Et on est très présent en amont, c'est-à-dire que nous avons, moi j'ai fait le choix d'une police municipale armée, nombreuse, présente, avec des caméras partout, et en réalité, dès que les regroupements commencent à se faire, il y a déjà des policiers municipaux sur place, déjà des policiers nationaux alertés, ça va très très vite. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on est à zéro délinquance, on est simplement en train de dire que tout doit être fait pour dissuader des bandes de constituer des terrains de guerre, mais il n'y a pas d'autre mot. Sauf que là, on n'est plus du temps de la guerre des boutons, hein. On y va à l'arme blanche.
Pour vous, il y a des terrains de guerre aujourd'hui dans certains quartiers français?
Mais évidemment, enfin bien sûr, on le sait tous. Et en réalité, par rapport à cela, le but du jeu n'est pas de dire ah bah comme on est de droite, on est plus sécuritaire, quand on est de gauche, on est plus laxiste. Tout ça est totalement dépassé. Les moyens, ils existent. Le mode d'emploi, on le connaît. Simplement, il y a des villes où on a mis ça en œuvre depuis longtemps et où on est très présent. D'autres ont les moins. Donc, ce qu'il faut, c'est que au niveau de l'État, on décide. Et pour moi, ce sera ça le grand changement. Alors, j'espère que on le fera peut-être pour le prochain quinquennat, qu'il y aura des présidents de la République qui auront le courage de faire ça. C'est de transférer les pouvoirs de police municipale aux maires, avec l'obligation pour les maires de faire des polices municipales armées, des caméras et de financer pour ça.
C'est pas prévu dans le texte de loi de sécurité globale qui est passé.
Ah ben non, c'est pas du tout prévu. C'est pas du tout prévu parce qu'on a peur de franchir le pas. Tout ça parce que vous avez quelques maires qui continuent de dire à l'ancienne que c'est à l'État de faire la police. Sauf que c'est plus vrai aujourd'hui.
L'État n'est plus capable de le faire ?
Bah, plus tout seul en tout cas. Et donc il faut acter cette réalité, parce qu'il n'en a plus les moyens, il faut acter cette réalité. Il faut que la police d'État se concentre sur le très dur, hein, le grand banditisme, la criminalité, la lutte contre le terrorisme, les cyberattaques, etc. Et que toute la délinquance de proximité soit confiée aux polices municipales armées, sous l'autorité du maire, du préfet, du procureur de la République. Tout ça est déjà très codifié. Et partout, cela se fait, ça marche.
Et vous dites qu'il faut obliger les polices municipales à être armées. Par exemple, celle qui va être créée à Paris, Anne Hidalgo ne veut pas qu'elle soit armée. Vous dites qu'il faut l'armée.
Mais c'est irresponsable d'envoyer des policiers municipaux, c'est-à-dire des jeunes gens et des jeunes femmes diplômés et formés sans armes, dans des quartiers où ils vont être confrontés à des gens qui ont des armes. Et ça, je trouve ça irresponsable. J'ai eu ce choix à faire le moment où j'ai décidé de faire cette police municipale quand j'ai commencé mon mandat de maire à Meaux, et sur les conseils du commissaire de police de l'époque, hein, pardon d'être très pratique, mais j'ai pris cette décision avec mes amis élus du conseil municipal de les armer en nous disant on ne peut pas prendre cette responsabilité de laisser des policiers municipaux désarmés. La vérité, c'est que la police municipale, ce sont des hommes et des femmes aujourd'hui qui sont formés, qui sont professionnels et qui, surtout par leur présence sur le terrain, étaient extrêmement dissuasifs.
Jean-François Copé, autre problème, se rencontrer par la police. Des policiers de plus en plus souvent pris à partie, de plus en plus souvent agressés. Et les agressions visant flics et gendarmes ont plus que doublé en 20 ans. Il y en a plus de 85 par jour aujourd'hui dans le pays. Si demain, votre famille politique revenait aux affaires, qu'est-ce que vous feriez pour régler ça? Comment vous feriez pour réconcilier une partie du pays avec sa police?
D'abord en assumant les choses.
Ça veut dire.
Parce qu'à partir du moment où nous avons un gouvernement, un exécutif qui a cautionné ce débat sur les violences policières, comme si c'était un fait généralisé et évident, en réalité, on a mis à égalité des voyous et puis des policiers qui commettraient ces actes qui, pour ceux qui le commettent, doivent être sanctionnés très durement, mais qui sont en vérité très minoritaires. Et puis, je voudrais quand même rappeler que la République, c'est pas le désordre. Lorsque, comme on l'a vu malheureusement au moment des Gilets jaunes, on piétine la tombe du soldat inconnu, on pille l'Arc de Triomphe, la réplique doit être extrêmement puissante, forte. C'est celle de la police républicaine.
Vous dénoncez quoi? Un gouvernement laxiste aujourd'hui?
En fait, qui a du mal à franchir le pas. Voilà, c'est le piège infernal du en même temps. Vous savez, cette fameuse formule qu'avait utilisée le président Macron et qui se retourne contre lui. Parce que quelque part, du coup, on ne sait plus très bien ce qu'on va faire. On est dans une fois dedans, une fois dehors. Or, en réalité, ce que les gens attendent aujourd'hui, c'est de la clarté. Pourquoi croyons-nous?
Il vous a pas échappé que le ministre de l'Intérieur vient de votre famille politique, Gérald Darmanin.
Mais bien sûr, mais le problème, Gérald Darmanin, il fait son travail de ministre de l'Intérieur. On n'attend pas un autre discours du ministre de l'Intérieur. Le problème, c'est le président de la République. C'est de lui dont procède en réalité l'impulsion à donner. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas, je dis simplement qu'il n'est pas suffisamment clair. Et sur ces sujets, nous avons besoin de clarté.
Monsieur le maire de Meaux, Jean-François Copé, qu'est-ce qu'on mange à la cantine chez vous?
On mange de tout.
On mange pas strictement végétarien comme à Lyon?
J'ai bien compris la question. On mange de tout et tout en respectant naturellement la possibilité d'avoir un menu de substitution lorsque c'est demandé, parce que je suis un grand défenseur de la laïcité, vous le savez, j'avais porté la loi d'interdiction de la burqa, j'ai mené bien des combats, mais je considère qu'il faut de temps en temps qu'il y ait des accommodements raisonnables parce que le repas de la cantine, c'est parfois le seul repas complet d'un certain nombre d'enfants dont les parents n'ont pas soit les moyens, soit la mobilisation suffisante pour leur donner des repas équilibrés le soir. Donc le repas de la cantine, ça doit être un repas équilibré. Et donc j'imagine que si votre question c'est par rapport aux agissements du maire de Lyon...
C'est bien, vous faites les questions et les réponses, c'est pratique.
Non, je vous laisse faire. Pardon, mais c'est exactement compris
ça.
Que c'était ça l'idée.
C'est exactement
bon,
ça.
Bon, écoutez, moi je vais vous dire, il ne faut pas être surpris. Le maire de Lyon, c'est comme le maire de Bordeaux. C'est des maires écologiques, qui au nom de l'écologie appliquent une doctrine rouge-vert. Voilà. Donc on a décidé qu'on allait imposer une doctrine, celle de manger végétarien, d'interdire la viande. Mais comme en plus tout ça est très hypocrite...
Ça permet de faire le service plus rapidement, c'est ce qu'ils expliquent.
Oui, enfin, c'est d'une hypocrisie sans nom, parce qu'en vérité, il n'a jamais été écrit nulle part qu'un menu unique devait se faire sans viande. Ou alors, il faut m'expliquer au nom de quoi on interdirait...
Parce qu'il y a ceux qui ne mangent pas telle viande, il y a ceux qui ne mangent pas de viande.
Bah, écoutez, on peut parfaitement, durant la période d'un plat unique, si on le souhaite, ne pas mettre de porc pour éviter le problème. Mais de là à interdire la viande, on mélange tout. Ouais. C'est pour ça que ceux qui attaquent le maire de Lyon en disant « mais c'est communautariste religieux », je ne pense que ça n'est pas du tout religieux. C'est juste une idéologie verte, mais verte au mauvais sens du terme, qui décide à la place des parents comment on nourrit, ou même d'ailleurs de l'ensemble des autorités sanitaires de ce pays, comment on nourrit les enfants. Je rappelle que pour la croissance d'un enfant, il est important de manger de la viande.
Et moi, je vous rappelle que Gérard Collomb, qui n'est pas un élu vert et qui était le précédent maire de Lyon, a fait exactement la même chose pendant le premier confinement.
C'est pas grave. Je me souviens qu'il était élu, mais il avait une majorité verte. Donc j'imagine qu'à l'époque, il devait la choyer, que c'est aussi ce type de concession qui donne lieu à ces aberrations. Ouais. Mais plus généralement, Thomas Soto, moi, je suis quand même très, très inquiet quand même de voir l'état dans lequel se retrouve aujourd'hui notre société, où on est en train de communautariser, de sectoriser, d'imposer des débats, d'interdire aux humoristes un certain champ d'humour.
Mais attendez, pourquoi vous voyez du communautarisme dans la décision du maire de Lyon ?
Non, mais là on voit de l'idéologie. Là on voit de l'idéologie, on n'est pas dupes. Et d'ailleurs, je dis aux Lyonnais qu'après tout, quand ils ont élu ce maire, il fallait qu'ils s'y attendent, comme d'ailleurs les Bordelais, quand ils ont élu un maire qui au nom du développement durable, leur a dit « il n'y aura plus de sapin de Noël ». Enfin, il y a un moment où l'idéologie, ça rend fou. Et je vois bien comment nous sommes en train de perdre tout ce qui fait la volonté de vivre ensemble. Parce qu'à force de culpabiliser, d'imposer des débats, notre société se délite. Et croyez-moi, en vous disant cela, je ne me sens pas plus de droite que de gauche, du centre, de l'ouest ou du nord. Je dis simplement que s'il n'y a pas à un moment dans notre pays un président de la République qui dit stop à tout cela, et que l'on continue à être dans l'espèce de renoncement et de concession, il y aura un drame dans ce pays.
Et en tout cas, ça divise également le gouvernement. Hein. C'est une honte à la ministre de l'Agriculture et à la ministre de l'Écologie.
Ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'en plus, on a un gouvernement qui se divise. C'est-à-dire qu'il y a des ministres qui peuvent avoir un avis différent sur la question de savoir s'il est normal qu'on interdise la viande dans les menus à Lyon. Là, je vous dis franchement, c'est là où je pense qu'il faut rétablir du leadership et qu'on ne peut pas laisser raconter n'importe quoi.
On est à un peu plus d'un an maintenant du premier tour de la présidentielle, Jean-François Copé. Est-ce que vous trouvez, comme Gérald Darmanin, que Marine Le Pen est devenue une opposante molle ?
Non, je ne pense pas du tout. Je pense d'abord que c'est une vraie erreur politique d'avoir dit cela, parce que cela contribue à banaliser le message de l'extrême droite, car Marine Le Pen, tout le monde connaît ce qu'est la famille du Front National, c'est une famille d'extrême droite, et on connaît son histoire, il arrive à certains moments que les leaders d'extrême droite, ils arrivent masqués. Bon, et pas simplement à cause du Covid.
Pour vous, ça reste la fille de son père idéologiquement ?
Mais c'est au-delà même de la fille de son père. Les gens qui adhèrent au Front National, pas les électeurs qui en auront le bol, mais les cadres, ceux qui portent ce mouvement, en réalité, pour beaucoup d'entre eux, viennent d'une famille politique qui a combattu la République de toute l'histoire de France. Alors, je me demande à partir de quel moment on va arrêter de jouer avec le feu. Et pour cela, il y a deux conditions.
Qui ont ?
Bah, tous ceux qui se trompent de débat. Lorsque on joue avec les mots en disant à Madame Le Pen, vous êtes un peu molle, en réalité, on pense avoir fait un bon cours. Mais non, parce que du coup, on banalise. C'est très exactement ce que des électeurs indécis attendre comme message pour dire, bah, si elle est molle, alors finalement, bon, on va peut-être pouvoir voter pour elle, pour donner un grand coup de balai.
Elle peut devenir présidente de la République dans un an ?
Je pense que le risque existe et qu'il faut arrêter de jouer avec le feu. Et pour cela, il faut que les hommes de gouvernement, par opposition aux populistes, c'est-à-dire à ceux qui, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, se nourrissent de solutions simplistes, là où gouverner, c'est complexe, ça demande des décisions difficiles, eh bien, il faut que les hommes de gouvernement, de centre-droit et de centre-gauche, proposent des solutions avec des résultats, et tout cela, ça se construit. Il y a eu des choses très positives dans ce quinquennat, d'autres beaucoup moins. Il faut une alternative parmi les partis de gouvernement.
Et alors justement, cette alternative chez vous, on sait que chez les gaullistes, on dit que la présidentielle, c'est la rencontre depuis De Gaulle entre un homme et un peuple, ou une femme et un peuple peut-être. C'est qui le candidat naturel ? Maintenant, la question se pose vraiment, il faut un chef.
Vous avez tout à fait raison. Comme vous dites, la question se pose vraiment.
Et
une chose qui est certaine, c'est que ça ne peut pas venir d'une primaire compte tenu de l'état des forces en présence, qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est devenu LR, qui n'est plus du tout ce qu'était l'UMP, du temps où avec d'autres, je la présidais, en réalité, n'a plus la surface suffisante pour présenter un candidat qui aurait toute légitimité. Donc, il va falloir qu'à l'extérieur de nos murs, nous trouvions quelqu'un vers lequel on se tourne pour le soutenir.
Et vous pensez à qui, vous ?
Ah ben, pour l'instant, j'en sais rien. On va attendre que les régionales aient lieu, voir un peu qui a gagné les régionales, qui n'a pas gagné. Je pense en particulier à Xavier Bertrand, mais aussi à Valérie Pécresse, et qu'on voit ensuite ce que nous ferons. Je pense que c'est un
débat
qu'il faut qu'on ait.
Pour vous, ça sera Bertrand ou Pécresse en fonction des résultats régionales, c'est ça ?
On verra. Il y a plein de paramètres qui jouent, puis de savoir s'ils sont candidats aussi, c'est pas inutile de le savoir. Tout ça, c'est quelque chose qui va devoir se décider entre l'été et l'automne.
Voilà. Pour vous, c'est exclu ?
Moi, personnellement ?
Oui.
Ah, moi, oui, c'est absolument, oui, je l'ai d'ailleurs dit, oui.
Merci beaucoup, Jean-François Copé, d'être venu.
Je me concentre sur mon mandat de maire, et par ailleurs sur mon activité d'avocat, et je suis le débat public du mieux que je peux en apportant de temps en temps ma contribution, comme je fais là, et je vous en remercie.
Merci à vous d'être venu nous voir dans RTL Soir. Merci, Jean-François Copé. À suivre l'œil de Philippe Cavrivière, qui contribue comme il peut, lui aussi, au débat d'RTL Soir. Vous avez fait quoi pendant vos vacances, Philippe ?
Écoutez, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis posé des grandes questions existentielles. J'ai pensé aux pigeons.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils font en ce moment, les pigeons ? Parce que leur grande passion, c'est quand même de nous chier dessus quand on est en terrasse. Mais là, dans quelle détresse ils sont ? Dans quelle solitude ? Est-ce qu'on y pense à eux ? Ça va être une fête pour eux quand on va revenir en terrasse. Ça va être la patrouille de France, ça va être un bon moment. Ils sont de retour.
Je pense qu'on va peut-être vous donner une deuxième semaine de vacances à vous.
J'y retourne, j'ai crevé.
Allez, c'est juste après le rappel des titres. Philippe Cavrivière.
En même temps, on est tellement impatients de retrouver des terrasses qu'on ira à n'importe quel prix.
Même avec un pigeon. Merci Jean-François Coquet.
Vous voyez que la question n'était pas inintéressante.
Non, c'est vrai. C'est un vrai sujet.
Merci d'avoir sauvé mon teaser.
Thomas Soto, RTL Soir.
18h31. Le rappel des titres avec Aude Vernuccio.
Deux violentes rixes entre jeunes en deux jours dans l'Essonne. La première hier à Saint-Chéron. Une collégienne de 14 ans qui tentait de s'interposer a été mortellement poignardée. Enquête ouverte et 6 personnes interpellées. L'un des suspects a reconnu son implication. Deuxième rixe aujourd'hui à Boussy-Saint-Antoine. Une quarantaine de jeunes impliqués. Deux blessés par arme blanche. L'un en état d'urgence absolue. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, attendu demain à Dunkerque. Le taux d'incidence est 4 fois supérieur à la moyenne nationale. 904 Covid pour 100 000 habitants. Le maire réclame de nouvelles restrictions. Et puis annonce pour les étudiantes en fac. Dès la rentrée prochaine, les protections périodiques seront gratuites avec 1500 distributeurs installés à l'université et dans les Crous.
La météo Peggy Broche pour demain.
Soleil et douceur, Thomas. Oh. Surtout dans l'après-midi, les températures printanières comprises entre 15 à Cherbourg et 22 à Biarritz, 19 à Paris, 20 degrés à Montauban, pas mal de grisailles côté ciel le matin, mais ça va bien se dissiper. Le soleil va s'imposer, il restera juste quelques nuages sur le golfe du Lion.
Merci à vous, Peggy. C'était bien la semaine dernière, il était en vacances. Et puis il est revenu, Philippe Cavrivière, ravi de vous retrouver, Philippe.
Shalom Thomas, shalom Peggy, shalom Aude, shalom Victoire. Akol Beseder, Mazel Tov. Je vous adresse un shalom géant à tous, c'est la saison. J'ai toujours aimé Israël, mais là, avec 50% de la population vaccinée, ça me donne envie de me convertir de demain. Je suis prêt à chanter du Rick Hazaraï. Trouvez-moi un coupon que je vais me circoncire dans les toilettes de RTL. Maintenant, dans les toilettes de RTL.
En même temps, ça suffit, un coupon. Ouais.
Je m'en fais un pendentif, j'adore les colliers. Ce sera mignon à côté. Alors, Mazel Tov Israël, où on vaccine en masse, pendant que, chez nous, Macron demande une vidéo à McFly et Carlito. Voilà. Pardon. On est sur RTL,
oui.
Je traduis cette info, Macron et McFly, et tout. Ouais. C'est comme si Charles de Gaulle demandait un scopitone à Bourville et Fernand Rémy.
Merci de la traduction, c'était utile, Philippe. Vous allez nous parler du reconfinement dans les Alpes-Maritimes où les cas de Covid explosent. Vous connaissez bien Nice, hein, vous y avez vécu, je crois même.
Oui, comme Romain Gary. Ah. C'est d'ailleurs le seul point commun que j'ai avec cet auteur. Mais j'aimerais citer un autre grand auteur niçois qui disait « Si t'avais connu ». La Nice baie des anges à moitié nue. Les voitures, bah oui, la culture. Les voitures de sport sur les avenues, tu ne pourrais plus rêver. C'est Didier Rivière,
Dick Rivers,
le grand Dick, le fameux Big Dick. Oui, c'est là où je me rends compte que j'aurais mieux fait de citer Romain Gary.
Peut-être, c'est très différent. Bon, est-ce qu'on a une explication sur l'omniprésence du virus à Nice, professeur Cavrivière ?
Écoutez, pas trop, mais en tout cas, le virus semble s'éclater sur place. Bon, il faut dire qu'avec les seniors sur zone, oh bah, c'est le paradis pour lui. Hein. Il est comme un pédophile à Disneyland ou PPDA au rayon canapé de Conforama. Il fallait lire Closer. Il y a beaucoup de nos aînés en réanimation à Nice. Thomas me confiait hors antenne. c'est le moment d'investir dans l'immobilier. Je vais me prendre 2-3 viagers sur la promenade des Anglais, il y a un max de thunes à se faire. Alors moi, j'étais choqué, et c'est là que Thomas a ajouté, je m'en bats
les couilles. Oh non.
Je dis pas, les quoi, Thomas?
Les couilles.
Oh non. Enfin, vous voyez que je n'invente rien, c'est sa voix. Ouais, bon, il l'a pas dit à ce moment-là, il l'a dit hier. Dans une autre phrase.
Bon, le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, a déclaré que le masque était désormais obligatoire là-bas.
Alors ça a l'air très con dit comme ça, mais il y a un léger décalage horaire avec Nice. Ils sont encore en février 2020. Donc du coup, ils découvrent le Covid, tout ça. Alors je rappelle aux auditeurs du Sud qui nous écoutent qu'il est déconseillé de lécher les barres de bus et d'éternuer dans la bouche de mamie, c'est les basiques.
Vous savez, même hors épidémie, on évite d'éternuer dans la bouche de mamie, s'il vous plaît. Alors, c'est encore les vacances scolaires. Les élus locaux du Sud tentent d'empêcher les touristes de venir.
Christian Estrosi a appelé le maire de Valenciennes pour savoir comment il s'y prenait depuis toutes ces années pour éloigner les touristes. Et le maire de Valenciennes lui a demandé « Qu'est-ce que vous entendez au juste par cette notion de touriste ?» Voilà. Bon. Bisous Valenciennes.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, lui a promis de faire envoyer sur place des doses de vaccins supplémentaires. Mais comment faire, professeur Cavrivière, pour vacciner en masse?
J'ai pensé à une solution toute bête.
Oui.
On organise un concert gratuit de Franck Michael en plein air. On lui fait chanter son tube « Toutes mes fans sont vieilles ». Là, tous les papis.
C'est pas toutes les fans sont belles, c'est toutes les femmes sont belles.
Oui, c'est pareil, on s'en fout, c'est le texte. Ils n'entendent plus à ce stade-là. Tous les papis et mamies, là, ils vont sortir comme des petits lémuriens et ils vont venir dans la fosse. Et là, à ce moment-là, on fait passer un canadair en rase-mode sur la foule de petits vieux et on leur balance des vaccins Pfizer dans le lion.
Mais non. Voilà.
Et en 2 heures. Tout le monde est vacciné. Je propose, je lance des idées. Après, le gouvernement fait ce qu'il veut.
En tout cas, on salue tous nos auditeurs de Nice, car c'est une magnifique région qu'on aime beaucoup.
Ouais, c'est vrai, Thomas. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est en venant à Nice que Steven Spielberg a eu l'idée de Jurassic Park. Je mets mes lunettes 3D. Oh, regardez sur la droite, c'est un hépadocus.
Un hépadocus.
Il est inoffensif, il n'a plus de dents. Il est uniquement sous peau vore. Attention, sur votre gauche, ne marchez pas dedans par terre. Il y a des déjections de Tyrannovioc de la famille des Masrolus. Oh, regardez là-bas. C'est le plus vieux de tous les dinosaures. C'est un Druciraptor.
Dis donc, Philippe, tu ne serais pas en train de faire une énième vanne sur mon âge, hein? Tu sais ce qu'il dit, Druciraptor? Je t'emmerde, je suis en pleine forme.
Michel Drucker.
C'est le nouveau Michel, il est cash maintenant. Ouais, je t'emmerde.
Il a bien raison, moi aussi je t'emmerde. Pas Michel, hein, toi Philippe. Autre sujet, hier il a fait son retour de l'actu, c'est votre favori, hein, l'avocat de Jonathan Daval, maître Randall Schwendorfer. Il a ironisé sur les 800 000 euros de dommages et intérêts demandés par la famille d'Alexia, la victime.
Il n'est pas content, maître Krados. Hein. Non, on ne lui fait pas. Hein. Il n'est pas né de la dernière pluie, ni sorti de la dernière douche. Il a failli nous passer un gros savon. Alors déjà, commence par toi, Randall. En gros, il a dit 800 000 euros. J'ai vu les photos d'Alexia, ça ne les vaut pas. Hein, c'était pas Kim Kardashian non plus. En gros, c'est ce qu'il dit. Maître Krados, lui, pense à son client et au préjudice de Jonathan. Alors, on en parle du préjudice de Jonathan. La France entière sait qu'il a un petit kiki. C'est que son effet béton, c'était plus dans ses cheveux que dans son slip. C'est pas blessant, ça. Il souffre pas, cet homme-là.
Bon, allez, sans transition, on finit par de la culture, ça vous embête pas.
Oui.
Hier, les Daft Punk ont donc annoncé leur séparation.
Après Peter et Sloan, après David et Jonathan, après Alexia et Jonathan, encore, un nouveau couple se sépare. Les Daft Punk, les deux artistes masqués. Alors, c'est le même principe que Masked Singer, mais avec du talent en dessous. Alors, ils n'avaient pas fait de tournée depuis 2007, pas de nouvel album depuis 8 ans. Bon, c'est un peu des fonctionnaires de la musique. Les gars sont à la retraite à 46 piges. Deux belles feignasses, c'est bien les Français. Tiens. Remarquez, des artistes qui terminent leur carrière sans aucune plainte d'agression sexuelle ou de pipi sur les platines, ça s'applaudit. Et maintenant qu'ils sont à la retraite, ils vont sûrement s'installer à Nice. Enfin, à Jurassic Park. Oh, regardez! Des Daft Punk Kodokus. Oh, qu'est-ce qu'il raconte? Oh, c'est bien, hein, c'est dansant. Aïe! Oh merde, je me suis pété le col du fémur comme Drucker.
Je t'emmerde.
Oh, bah Michel.
Merci à vous.
On embrasse Michel qui nous écoute.
Mais donc il va bien, c'est cool, c'est bien de l'entendre.
Il va très
c'est
bien.
C'est chouette. Merci à vous, Philippe Cavrivière, on vous retrouvera
jeudi.
Oui, et demain, c'est... Merci.
Valérie Trier-Valeur.
C'est bien. Bon, c'est bien que...
Il a bien révisé.
Fallait vous laisser en vacances, vous. Allez, il s'appelle Christian Clot, le bien nommé, puisqu'il va passer 40 jours au fond d'une grotte avec 13 autres personnes. Et s'il fait ça, ce n'est pas seulement par goût du défi, mais bien pour la science. Christian Clot, à qui on va demander s'il ne veut pas embarquer Philippe Cavrivière, est l'invité d'RTL Soir, tout de suite en direct.
Thomas Soto, RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
Il n'est pas forcément besoin d'aller sur Mars pour trouver l'aventure, la preuve avec l'explorateur et chercheur Christian Clot, invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous Christian Clot.
Bonsoir.
Alors dans quelques jours, à partir du 14 mars, vous allez plonger sous terre avec 7 femmes et 6 hommes. Vous allez en fait vous installer pendant 40 jours dans la grotte de Lombrive. C'est une grotte qu'on trouve en Ariège. 40 jours à 14 dans une grotte, ça fait penser au loft, sauf que là ça va servir à quelque chose. Quelle est l'ambition de cette mission Christian Clot?
Il y a plusieurs ambitions. On va se trouver sans aucun relation avec le soleil ni à une montre. Donc on sera en anomie temporelle. Un peu ce qu'on a vécu en 2020 en fait. Les gens se sont retrouvés plongés dans une nouvelle situation qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont dû trouver des adaptations. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur cerveau? Comment est-ce qu'on a retrouvé une synchronicité entre les humains? Finalement, on va essayer de le comprendre grâce à cette mission.
Donc en gros, vous allez perdre tout repère espace-temps. Pas de jour, pas de nuit, pas de matin, pas de c'est soir, ça. Pas d'heure. Et vous allez voir ce que ça donne.
C'est ça. On pousse à l'extrême une situation pour accélérer la situation, l'observer et puis essayer de comprendre un certain nombre de mécanismes cognitifs, de mécanismes physiologiques. Et puis aussi, surtout, comment un groupe humain trouve une synchronicité, un fonctionnement ensemble quand on ne peut plus donner de rendez-vous. Là, on s'est dit, tiens, on se retrouve à 18h30. Mais comment on se retrouve s'il n'y a plus cette notion-là? Et c'est tout ça qu'on va essayer de comprendre. Mais
aidez-nous à planter un peu le décor. Elle est grande, cette grotte? Elle est profonde?
C'est une grotte splendide. C'est une des plus grandes grottes d'Europe. Donc, on entre dans une grotte qui est d'abord visitable pour les touristes. Donc, ça, c'est allez-y. C'est
sauf que là, fabuleux. On ne pourra pas. Pendant que vous y serez, vous serez coupé du monde.
Mais par contre, dès qu'on sera reparti, vous aurez la chance d'y aller. Des très grandes salles. La plus grande salle, la cathédrale, elle fait la taille de Notre-Dame de Paris.
Un exemple. Donc, vous ne serez pas les uns sur les autres?
Alors, on ne sera pas les uns sur les autres. Pour aller encore plus loin, on va aller au fond de la grotte, là où les touristes peuvent plus aller. Et c'est là qu'on va installer notre camp, notre système de vie. On va avoir un endroit de vie, on aura des habitations pour les gens. On s'installe vraiment dans un nouveau monde, un peu comme une mission lunaire qui irait s'installer sur la Lune avec une base avancée pour aller explorer le territoire.
Mais vous allez faire quoi une fois que vous serez en bas? C'est long quand même, 40 jours et 40 nuits.
Ouais, mais vous rendez compte la paix qu'on va avoir là.
Ah bah ça, c'est sûr.
Non, il y a plein de boulot. D'abord, il y a le camp. Il faut qu'on crée l'eau, il faut qu'on crée l'électricité, il faut qu'on assainisse le camp comme un petit village, un petit hameau qu'on installerait.
Donc il y aura une douche, des toilettes, il y aura tout ce qu'il faut.
Il y aura toutes les toilettes. Il y a toute la partie scientifique, on doit comprendre comment les humains fonctionnent, le cerveau, on fait des manipulations scientifiques complexes qui vont durer des heures.
Vous ferez des expériences là-bas? Alors,
dessous, on fait des expériences, on aura des électroencéphalogrammes, des appareils de monitoring humain, on va pouvoir contrôler comment fonctionnent les gens, on aura un sociomètre qui va permettre de savoir comment les gens sont en interaction.
Un sociomètre, c'est quoi un sociomètre?
Oui, c'est un appareil qui va déterminer combien de temps les gens passent ensemble, s'ils sont plutôt en train de rire, en train d'être tristes ensemble et tout, on va déterminer.
Donc, tout sera enregistré.
Ouais. Alors, c'est vrai que pour eux, c'est très impliquant. Ils vont devoir eux-mêmes enregistrer des données. Mais tout ça, ça va nous permettre, c'est extraordinaire. C'est la première fois au monde qu'un groupe humain aussi conséquent se retrouve dans ces conditions.
Et comment vous vous êtes sélectionné? Vous vous connaissez déjà? C'est quoi?
On a tiré au sort comme ça.
J'imagine que non, mais...
Non, c'est des gens que je prépare depuis des années. On a des grands projets de mission justement pour comprendre comment l'humain fait face à ces nouveaux changements qui vont être ceux de demain, le climat. Donc on fait des missions qui s'appellent 4x30. On les emmène dans des milieux extrêmes. Et là, on pouvait pas partir à l'étranger. Donc on s'est dit, tiens, quel genre de mission peut monter qui va répondre à la situation qu'on vient de vivre. Et cette mission.
Donc c'est vraiment un miroir du confinement qu'on a vécu.
Oui, c'est un miroir et surtout c'est une mission qu'on fait en France. Et ça, c'est aussi un message qu'on peut faire passer. On peut monter des choses extraordinaires sans forcément aller à l'autre bout du monde. Et c'est ce qu'on a. Au-delà de la science qu'on va mener, c'est aussi une belle démonstration que même en temps de Covid, on peut avoir des espoirs, on peut monter des projets, on peut réaliser des belles choses.
Mais il fait quelle température dans une grotte comme ça?
Alors il fait pas chaud, mais pas froid non plus, il fait 12 degrés. Oui. Par contre, il fait 95% d'humidité. Donc on sera un peu mouillé tout le temps, quoi. Mais ça fait partie de l'expérience, c'est-à-dire qu'on plonge les personnes dans un univers qu'ils n'ont jamais connu. C'est-à-dire personne n'est assez fou pour aller vivre 40 jours dans une grotte, faut le dire quand même.
Bah, c'est vrai qu'en général on monte plus, quoi.
C'est qu'on irait, on y va, on y reste. Alors là, on va vraiment changer le monde de ces humains et on va voir comment ça fonctionne. Est-ce que le temps est un problème? Est-ce que le nouvel espace est un problème?
C'est-à-dire que vous mangerez quand vous aurez... rien ne sera prévu, c'est ça?
Voilà, rien n'est prévu.
Et vous mangerez quoi, par exemple?
Alors il y a un magasin qu'on va installer au fond de la grotte, avec des boîtes de conserve, avec plein de choses, des pâtes et tout. Donc chacun pourra se faire à manger quand il en aura envie ou alors par petits groupes. Et vraiment, il faut que chacun trouve son propre rythme. C'est ça la difficulté. Comment est-ce que chacun peut avoir son rythme personnel tout en créant un système collectif fonctionnel qui permet de faire les actions qu'on doit faire ensemble, à savoir aller chercher de l'eau, faire fonctionner le matériel scientifique, topographier la grotte et tout ce qui va autour.
Et toutes ces données, là, parce que vous dites vous êtes branché, vous êtes des électros, je sais pas quoi, encéphalogramme, etc. ça remonte à la surface? Comment c'est traité? Alors, en temps réel, ça sera traité à la sortie?
Ça ne remonte pas à la surface, on a très peu de contact avec la surface, donc on va tout enregistrer dans des boîtes de données qui seront ensuite extraites de manière irrégulière pour pouvoir quand même avoir des données données un peu fiables, mais tout sera surtout sorti à la fin. Et c'est là que les différents scientifiques, il y a quelques dizaines de scientifiques qui vont se jeter sur ces données pour essayer de comprendre chacun à leur manière, puis ensuite collectivement, ce que veut dire s'enfermer dans une grotte et surtout dans un système nouveau pour les humains.
Vous n'êtes pas claustrophobe, vous, hein ?
Non, mais dans cette grotte, on n'est pas. Je crois que n'importe qui pourrait y venir. Dans cette grotte, elle est grande, elle est belle, elle a vraiment une colorimétrie fabuleuse, elle a des concrétions extraordinaires. C'est aussi ça pour ça qu'on choisit une grotte. On pourrait faire ça en bunker, finalement. Hein.
Ouais.
Mais la grotte, c'est un espace naturel dans lequel on vit, dans lequel on s'émerveille. Et je suis persuadé qu'on ne s'adapte pas bien à un milieu si on ne trouve pas ses fonctions d'émerveillement, ses envies d'y être, ses envies de découverte, de visiter. Tout ça, ça fait partie de notre adaptation. Et c'est ce qu'on devra retrouver dans les moments les pires de nos vies, cette capacité à trouver la beauté et l'envie.
Et qu'est-ce qui se passera si ça se passe mal entre vous ? S'il y a des conflits, s'il y a des... Comment ça vous allez gérer ça ? Vous devrez gérer ça sans sortir.
On va devoir gérer ça avec le groupe qu'on est. Je suis persuadé qu'on a constitué un groupe qui est capable de sortir de toutes les situations. Chacune et chacun, individuellement, ne pourrait pas survivre à cette mission. Mais ensemble, parce qu'on a toutes les manières de penser, les manières de voir le monde, la vie, eh bien, lorsqu'il y aura un problème, je compte sur le groupe pour trouver les systèmes de résolution. Mmh. C'est aussi ça qu'on va observer, d'ailleurs.
Qu'est-ce qui fera que cette mission sera réussie, Christian Clos ?
Déjà qu'on ressort tous vivants.
Oui, bah oui, on vous le souhaite quand même.
Les pauvres qui m'écoutent. Non, non. La mission, elle sera.
Vous allez rassurer vos proches avec ça, vous.
Oui, c'est ça. Allô, maman. Non, la mission, elle sera vraiment réussie si, d'abord, on tient les 40 jours tout en restant justement dans un groupe qui a envie de continuer de fonctionner ensemble. Si on a prouvé que finalement, dans quelles que soient les conditions, même sans timing, même dans une grotte, on peut recréer un système de vie qui est fonctionnel et qui donne envie de continuer dans le futur. Et si on arrive à remonter les données scientifiques qu'on espère. Mais vous savez, je crois qu'aujourd'hui, on doit déjà montrer aux gens que c'est pas parce qu'il y a un confinement à un moment donné, c'est pas parce qu'il y a un moment difficile dans nos vies qu'on doit considérer que l'avenir n'existe plus. Mmh. Et je crois que
votre truc, c'est pour donner un conseil à ceux qui vivent mal le confinement, non ? C'est regarder, on peut s'en sortir.
C'est pas donner un conseil, c'est se poser des questions. Quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour mieux se sortir de ces situations ? C'est pas seulement le confinement qu'on a vécu, ça voilà, il est passé. Et puis il y a d'autres situations qui vont arriver, mais d'autres situations vont arriver. Moi, je crois qu'on doit trouver les mécanismes adaptatifs humains pour s'en sortir et qu'on les enseigne. Aujourd'hui, on manque de cette compréhension et on ne sait pas enseigner l'adaptation aux gens.
Elle est à quelle profondeur, cette grotte ?
Alors, elle n'est pas profonde, hein. On va aller à 1 km en plateau, puis après, il y a 90 mètres de descente avec un rappel.
Donc, 1 km de longueur, vous marchez, voilà, puis après, ça. Vous allez... Ouais, quand même, on ne ressort pas tout de suite. Hein, le portable ne passe pas, vous ne captez pas.
Le portable ne passe pas, il n'y a pas grand monde qui peut venir, on ne croise pas beaucoup de monde au magasin, mais ce sera un endroit sympa.
Mais il n'y a pas de couvre-feu à 18h, puisqu'il n'y a plus d'heure.
Il n'y aura pas de masque non plus, parce qu'on aura fait les tests qu'il faut pour entrer, donc on sera finalement presque plus libre que ce qu'on est aujourd'hui.
Vous allez mettre quoi dans votre valise, à vous, en dehors de ce qu'il faut pour survivre et des vêtements de change, j'imagine ?
Ouais, des vêtements de rechange, mais on ne ressent plus, bien sûr, parce que c'est important d'avoir un peu un souvenir de la surface. Non, moi je vais mettre des choses que j'aime beaucoup, des livres que j'adore. Je vais mettre aussi des images de personnes que j'aime parce que c'est important, ça fait partie du jeu et de se dire qu'il y a des gens qui nous attendent. Et cette envie de revoir les gens, c'est aussi une fabuleuse manière. L'amour, c'est quand même ce qui nous porte et cette envie de les revoir, ça nous donne une force extraordinaire.
Vous êtes dans quel état d'esprit, vous, à quelques jours de la descente comme ça ?
Alors moi, je suis épuisé parce que la mission est très dure à monter. On monte une mission qui se mettrait 2 ans à monter en 4 mois. Mais on sentait qu'il y avait un besoin maintenant. Mais je suis extrêmement excité, je suis aussi très heureux de vivre cette expérience avec les 14 personnes qui constituent ce groupe, parce que ce sont des gens avec qui je vis, entre guillemets, que j'accompagne de loin depuis maintenant presque 3 ans. Et là, ils sont prêts, on va les emmener.
Vous
ne m'avez
pas répondu, ce sont tous des sportifs de haut niveau ou pas?
Non, pas du tout. Non. Ce sont vraiment des gens de la vie de tous les jours. On a une personne qui est bijoutière, on a un cordiste, on a des gens. Voilà. C'est aussi ça l'idée, c'est de montrer que. Il n'a pas besoin d'être un sportif d'élite, un génie ou un grand clerc pour arriver à vivre des choses extraordinaires.
Vous n'avez pas peur du tout ?
Si, j'ai peur. Ah. Heureusement. Je crois que si j'avais pas peur, je ferais beaucoup de bêtises et la peur me pousse à être meilleur dans ce qu'on fait.
Déjà, quand vous avez peur, vous n'êtes pas très raisonnable quand même. Merci en tout cas, Christian Clos, d'être venu dans RTL Soir. Vous nous donnerez des nouvelles quand même.
Oui, et puis si vous voulez nous suivre, c'est deeptime.fr, hein, le site internet. Et on vient de lancer un financement participatif pour que cette mission soit possible. Donc allez sur deeptime.fr.
Deeptime.
Voilà, c'est ça. Et suivez, ça va être une super mission. Il y aura des belles histoires à raconter.
Il n'y aura pas d'image en direct de ce qui se passe en bas.
Il n'y aura pas d'image en direct, mais il y aura des belles histoires.
C'est de la triche. La triche, pardon. Merci beaucoup à vous d'être venu, Christian Clos, dans RTL Soir, et bon voyage. Donc.
C'est un plaisir.
Un menu végétarien qui n'en finit pas de faire parler à Lyon, on l'évoquait tout à l'heure avec Jean-François Copé. Ce soir, dans la culture de l'actu, Julien Molcou a décidé d'aller manger à la cantine.
Je préfère manger à la cantine avec mes copains et mes copines.
Thomas Soto, RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
On n'a jamais autant parlé d'un menu dans une cantine scolaire, en l'occurrence celle de Lyon, qui seront donc des menus sans viande. Bonsoir Julia Molcou.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
La culture de l'actu a donc décidé avec vous de passer à table ce soir, c'est du pain béni pour vous.
Où sont les poulards? J'ai faim! Où sont les fers?
C'est à partir du 19e siècle que les scènes de repas prennent leur importance dans la littérature, Thomas. On nous décrit la façon dont est dressée la table, par exemple. C'est le cristal du service, mince et léger, dans la Curée de Zola, ou encore les assiettes à petit four au motif des mille et une nuits chez Proust. Et puis, bien sûr, on nous décrit ce qu'il y a dans les assiettes, ce qui nous en apprend sur le milieu social des hôtes. Mmh. Et si pendant des siècles, tous les plats étaient posés en même temps sur la table, eh bien, à partir du 18e, c'est le service dit à la russe qui prend le relais et les plats sont apportés les uns après les autres.
Les oies! Très bon parce que ça est gras! Le troupeau de moutons! Ça donne une fée de loup! L'omelette des titans!
Bon, vous aurez reconnu les 12 travaux d'Astérix.
Absolument.
Hein. Et cette épreuve du restaurant que Obélix va remporter haut la main. Alors, le cinéma français adore les scènes de table. Et sans aller jusqu'à l'orgie suicidaire de la grande bouffe de Marco Ferreri, arrêtons-nous quelques instants aux côtés de Marielle et Rochefort, qui se lèvent en pleine nuit, non pas pour partir chasser, mais pour manger. Pâté, rillettes, saucisson, tout y passe.
Oh,
c'est juste une question de volonté, Thomas.
Qu'est-ce que t'as? Ça va pas?
J'ai pas faim.
Mais moi non plus, j'ai pas faim. En voilà une excuse.
Je suis barbouillé.
Eh ben débarbouille-toi, la tuborg, c'est fait pour ça. Hein, y a rien de tel pour se remettre la bouche à neuf. Tu veux du saucisson à l'ail?
Oh non.
Ben moi je vais en prendre. L'admirable cholestérol qu'on va se payer.
Et puis après toute cette bonne cochonaille, vous prendrez bien un petit peu de gâteau, Thomas.
Oh, de dessert, c'est une bûche?
Non, c'est cloug.
Cloug. C'est cloug. C'est roulé à la main sous les aisselles.
Ah non, ça c'était les Doubichous.
Ah ouais, c'est les Doubichous,
mais c'était
vous avez raison.
Toujours de Monsieur Prescovic.
Ouais.
Et la troupe du Splendide nous a aussi offert une scène mythique, cette fois-ci de commande au restaurant.
Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
Ah non, 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 je m'excuse monsieur, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte.
Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
La fameuse crêpe au sucre que ne sert
au
pas
sucre,
Gigi.
Hein, au sucre.
La crêpe au sucre, évidemment, aka Marianne Chazelle. Beaucoup moins conciliante, vous l'admettrez, que le serveur en livrée du grand restaurant de Monsieur Septime.
Écoutez, vous me donnerez un radis.
Comment vous dites, monsieur?
Vous me donnerez un radis.
Un radis. Bien, monsieur, et ensuite?
Et si j'ai encore une petite faim, hein, vous me donnerez un yaourt.
Un yaourt.
Voilà le grand restaurant, film coécrit et interprété, évidemment, par Louis de Funès, sorti en 66.
Bon, et puis la gastronomie, ça se chante aussi, hein?
Alors, la gastronomie, je sais pas, mais le pain et le beurre, oui. Vous connaissez cette chanson de Claude
pas
François
du
pain et du beurre, sortie en 64. Et deux ans plus tard, ouais. Et deux ans plus tard, on pouvait partir pique-niquer avec Nino Ferrer, à condition de ne pas oublier quoi?
Les cornichons.
Les cornichons.
Ah, ouais.
Les
cornichons, de la moutarde.
Bon, depuis les années 70, Thomas, de toute façon, le constat est sans appel. Hein. Entre la nourriture industrielle et la surconsommation, on est foutu, on mange trop, et c'est encore Alain Souchon qui le chante le mieux.
Le gros bibin d'homme que t'as dans le cœur, tu l'as trouvé beau dans le temps, petite sœur. 60 kilos d'échevelés poètes, tout lui vide au milieu des tempêtes. Mais l'estomac, il tient pas la rime, l'albatros patauge dans l'ice cream. Nous la jolie, nous la beau.
Quel programme et quel menu, merci Julia et félicitations pour votre maîtrise de l'alimentaire dans le Père Noël est une ordure, hein. Ne pas confondre le cloug et les Doubichous, c'est quand même la base.
Merci Thomas.
La météo.